Wait a minute. Wait a minute, Doc. Are you telling me that you built a time machine?
Dudes, you guys are gonna go back in time.
Ladies and gentlemen.
10, 9.
Dr. M presents.
6, 5, 4, 3.
Classics
2,
time machine.
1, 0. All engine running.
On Radio Saint Afrique.
Bonsoir à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Classics Time Machine, votre rendez-vous radiophonique mensuel qui vous fait remonter le temps en musique et en archives, avec aux commandes de cette magnifique invention, moi-même, le Dr M, votre humble serviteur et érudit de service. Ça fait toujours plaisir d'être derrière le micro malgré cette chaleur écrasante. Je vous remercie d'être avec nous pour ce 15e numéro que j'espère vous écouter au frais. Alors ce mois-ci, nous partons ensemble faire un tour autour de l'année 1984 en moins de 60 minutes chrono. Il y aura tout au long du programme des faits historiques et futiles à revisiter, et côté musique, des grands classiques, mais aussi des tubes dont vous ne vous souveniez plus, ou dont vous auriez préféré peut-être ne plus vous souvenir à tout jamais. Bref, je suis là pour vous rafraîchir la mémoire, alors accrochez-vous bien, car on part immédiatement dans le vortex radio-temporel. Classics Time Machine 1984, this radio show is good to go.
Vous êtes en 1984.
1984 de toutes les années 80, c'est sans conteste la plus kitsch de ces décennies pour nos standards esthétiques actuels, aussi bien sur le plan de la musique que de la mode. Il suffit de regarder le moindre film, la moindre archive ou le moindre clip vidéo de cette année pour s'en rendre compte. Couleur bariolée au ton néon, coupe de cheveux improbable en hauteur, le triomphe du brushing, bijoux fantasy en plastique énorme, bref. Malgré cela, on assiste depuis quelques années à un retour de certains éléments vestimentaires de cette époque chez les Jeunes, le jean super taille haute par exemple. Eh ben, ça fait bizarre de croiser dans la rue des lycéennes qui sont sapées comme votre mère l'était en 1984, fois de presque quadragénaire. Mais 1984, c'est aussi la palme d'or pour le magnifique film Paris, Texas de l'allemand Wim Wenders. C'était l'année où les femmes au Liechtenstein obtinrent finalement et en tant que dernier pays européen le droit de vote, et oui. C'était l'année du lancement du fameux Macintosh que la firme de Steve Jobs, Apple, propulsa sur le marché pour tous ceux qui ne savent toujours pas se servir d'un ordinateur, et la même année en Russie soviétique sortit un jeu vidéo cultissime de l'esprit d'Alexei Pachtinov, Tetris. Mais 1984, c'est aussi l'année d'une sortie d'un tube mondial, voire interplanétaire, du groupe français complètement déjanté, composé de Feu Fred Chichin et Catherine Ringer, les Rita Mitsuko avec Marcia Baila. Un titre hommage à la danseuse Marcia Moreto, grande amie de Catherine Ringer et décédée quelques mois plus tôt d'un cancer, qui n'était même pas prévu d'être sorti comme single. Leur maison de disques ne voyait aucun potentiel dans ce morceau qui finit sur une face B d'un autre titre oublié du groupe. Ce sont les radios libres qui ont fait tourner ce disque en boucle et l'ont catapulté dans la stratosphère musicale, ce qui fait faire marche arrière, arrière toute à la maison de disques, et le single sera lancé avec un clip absolument génial, avec les conséquences qu'on sait. Premier arrêt musical de Classics Time Machine 1984, voici donc les Rita Mitsuko, Marcia Baila.
Yeah! quand tu souris et quand tu ris, je ris aussi. Tu aimes tellement la vie. Quel est donc ce froid que l'on tend en toi? Mais c'est la mort qui t'a assassiné, ma Mathia. C'est la mort qui t'a consumé, ma Mathia. C'est le cancer que tu as pris sous ton bras. Maintenant, tu es sans bras, sans mémoire. C'est comme une chose impossible. Et pour toi qui es la fumée, ma Mathia. Et même à toi qui es toi comme une fusée. C'est la mort qui t'a abandonné.
Monsieur, bonsoir. 59% des suffrages, 49 États sur 50. C'est par un véritable plébiscite que les Américains reconduisent au pouvoir pour un second mandat un homme de 73 ans qui manifestement incarne mieux que jamais l'image que l'Amérique choisit d'elle-même, l'image qu'elle préfère. Les images symboles de cette élection américaine 84 et l'analyse à Washington d'Edouard.
What we've done only prepares us for what we're going to do. We must continue not only into those next 4 years, but into the next decade and the next century to meet our goal of sustained economic growth without inflation and to keep America strong. You forgive me. I'm gonna do it just one more time. You ain't seen nothing yet. God bless you. Thank you.
...1984, c'est l'apogée du mythe de l'Amérique qui gagne, de la performance économique et pop culturelle d'une nation dotée d'un leader charismatique et hollywoodien, et de sa réélection triomphale, Ronald Reagan. L'ancien acteur de western avait été élu en 1980 au détriment du raisonnable et modéré président Jimmy Carter pour faire place à une administration 100% American Spirit, avec pour mot d'ordre la puissance économique et la fierté d'être américain. J'ai employé le mot mythe car si, sous le premier mandat de Reagan, les USA ont su de nouveau rouler des mécaniques, la situation sur le plan économique et social, elle, fut loin de s'améliorer. Boostée aux stéroïdes du néolibéralisme et soutenue par leur allié indéfectible Margaret Thatcher au Royaume-Uni, les années Reagan ont surtout vu la classe ouvrière se précariser et une élite richissime devenir richissimissime. Son programme était en effet basé sur une idée très chère à notre président actuel, la fameuse et fumeuse théorie du ruissellement. Donner plein d'argent aux super riches en privant les pauvres, et la furie d'entreprendre créera des millions de jobs et encore plus de richesses pour tout le monde. En réalité, cette politique eut davantage l'effet de grossir les comptes en banque des élites où l'argent resta confiné au fond des coffres et les investissements attendus n'eurent jamais lieu, tandis qu'on s'affairait à la casse des services publics et des moyens sociaux sous couvert de modernisation de la société. Ce qui explique la réélection écrasante de Reagan, c'est que les effets de sa politique sur le long terme n'étaient pas encore visibles et son image de président winner, de grand défenseur de la démocratie contre l'empire du mal communiste était encore intacte. En réalité, ce deuxième mandat sera une douche froide pour beaucoup et surtout, il sera entaché par des révélations d'affaires impliquant directement le président Reagan, notamment le scandale du financement des milices Contra au Honduras qui mirent le Nicaragua sandiniste à feu et à sang. Alors au même moment, il y en a un qui sortait un tube monstre, je parle de Bruce Springsteen qui lança le titre le plus mal interprété de l'histoire du rock, Born in the USA. Quasiment tout le monde pense que c'est un chant patriotique à la gloire des 50 États, alors qu'en fait, pas du tout. C'est un titre extrêmement critique et sévère sur la politique des États-Unis qui enchaîne guerre sur guerre et laisse la population s'appauvrir, et les vétérans qui ont servi dans cette grande nation, complètement dans la merde. Mais bien sûr, pour ça, il faut être en mesure de comprendre les paroles de la chanson, ce qui, si vous ne savez pas le faire, ne doit absolument pas vous faire rougir, car visiblement, même les Américains n'y arrivent pas. J'en veux pour preuve le fait que chaque abruti qui dirige la campagne électorale des Républicains, inclut toujours ce titre dans leur meeting. C'est incroyable, c'est vous dire s'ils doivent être cons ou sourds, mais j'opterai plutôt pour la première explication. Rendons justice à ce titre et écoutons comme il se doit la chanson contestataire « Born in the USA » de Bruce Springsteen.
Bilan de plus en plus tragique en Inde à la suite d'une fuite de gaz toxique à Bhopal dans le centre du pays. 1200 morts au moins, des centaines d'autres victimes condamnées.
It is too early to call these people survivors. Some will die within 6 weeks as their livers, kidneys and lungs deteriorate. Nothing can be done for them. And there is also danger to those who escaped the poison gas. Dead animals litter Bhopal, raising the chance of disease. No one knows whether the food is contaminated.
Madame, Monsieur, bonsoir. Il s'agit bien de la plus grande catastrophe écologique jamais survenue dans notre civilisation industrielle. En Inde, le quart de la population de Bhopal, la petite capitale de l'état du Madhya Pradesh dans le centre du pays, le quart de sa population souffre affreusement de la fuite d'un gaz toxique survenu hier dans une usine appartenant au groupe américain Union Carbide. Le dernier bilan officieux fait état d'au moins 1200 morts et il s'alourdit d'heure en heure. 12 000 personnes s'entassent dans les hôpitaux et beaucoup d'entre elles sont sans doute condamnées. Des images extrêmement pénibles. Isabelle Bechler.
But the plant is off limits to everyone, and that includes company employees. The government is concerned that someone might tamper with the evidence. Early reports say the accident occurred at an hour when skilled supervisors were at home in bed. A government chemist says a qualified supervisor should have been on duty round the clock.
Once an accident happens, a few anticipatory measures could have been taken. In this case, I am very clear that the thing which was done after 1 hour could have been done within a few minutes.
On évoquait le mois dernier la catastrophe industrielle de Seveso en Italie en 1976. Eh bien, il y en a une, bien pire, le 3 décembre 1984 à Bhopal en Inde, lorsque dans la nuit, un réservoir d'une usine de la compagnie Union Carbide, contenant le très nocif gaz isocyanate de méthyle, utilisé dans la composition de nombreux pesticides, explose, créant un nuage de 25 km² qui se dirige tout droit sur le centre-ville, tuant dans leur sommeil 3500 personnes et en empoisonnant 300 000 autres. L'accident aurait pu être facilement évité si des mesures sérieuses et du personnel compétent avaient été présents, ce qui ne fut pas le cas. Les responsables techniques étaient au lit et furent alertés seulement une heure après le début de la catastrophe. Les lignes de téléphone étant constamment en panne, des ouvriers étaient partis à vélo les réveiller et moins d'une heure plus tard, ils réussirent à stopper la fuite, mais il était déjà trop tard. On ne dispose aujourd'hui d'aucun chiffre officiel sur cette catastrophe, mais une commission d'enquête de l'ONU parle de 20 à 30 000 morts et des centaines de milliers de personnes handicapées à vie. La pollution chimique, elle, n'a pas pu être combattue efficacement et les terres du secteur sont toujours empoisonnées aujourd'hui. La firme américaine Union Carbide, rachetée depuis par Dow Chemicals, qui gérait cette usine, rejette toujours sa responsabilité et n'a jamais été traduite en justice. Quelques mois après la catastrophe, le site fut fermé et des centaines d'ouvriers furent jetés au chômage sans indemnisation. Un petit signe de justice quand même est venu de la part des activistes de Yes Men, professionnels du canular politique qui en 2004, lors du 20e anniversaire de la catastrophe, ont réussi à se faire passer pour les porte-parole de Dow Chemicals et ont annoncé en direct sur la chaîne BBC World que Dow Chemicals allait pleinement assumer sa responsabilité et investir 12 milliards d'euros dans la dépollution du site et dans l'indemnisation des victimes, la création d'écoles et d'hôpitaux dans la région, ainsi que d'adopter des règles strictes de transparence sur leurs produits. Pendant les 23 minutes où ils ont réussi à faire tenir leur canular, l'action de Dow Chemicals a plongé en bourse et fait perdre 2 milliards de dollars à ses dirigeants, les investisseurs n'appréciant visiblement pas ce virage philanthrope de la compagnie. Aider son prochain et assumer ses conneries, c'est définitivement bad for business. Mais la réalité reste hélas à ce jour tragique. Personne n'a été jugé coupable et responsable de la pire catastrophe industrielle de tous les temps.
I want to break free. I want- get used to living without, living without, living without you by my side. I don't want to live alone. Hey, God knows, got to make it on my own. So baby, can't you see, I've got to break free. I've got to break free.
C'était Queen, bien sûr, avec I Want to Break Free. Si vous avez vu cet excellent clip où un Freddie Mercury travesti en femme au foyer se trémousse avec son aspirateur, je suis prêt à parier que, comme moi, vous aussi, vous l'avez un jour fait, avec le même déhanché, j'espère.
In this city, under cover of darkness, someone is stalking Sarah Connor.
Sarah Connor?
Yes.
Sarah Connor, 35, brutally shot to death in her home.
You're dead, honey.
What's this? Dead girl, too.
Sarah Louise Connor. Is this right?
Of course, we'll have more on this late-breaking story as it comes in.
She doesn't know why, but it's her he's after.
Did you reach the next girl yet?
No, I didn't get an answer, Michelle.
Pick up if you're there. Really scared.
I think that there's somebody after me.
And no one can help her. Except for one man.
I'm Reese. It's assigned to protect you. You've been targeted for termination.
Arnold Schwarzenegger is... the Terminator.
J'aurais pu vous parler pour cette page cinéma d'un film multiprimé aux Oscars ou à Cannes, mais en fin de compte, pour illustrer cette année 1984, j'ai choisi un film plus anodin sur le plan culturel en vous parlant de la sortie d'un carton international, The Terminator, de James Cameron, avec en star absolue l'acteur américain Arnold Schwarzenegger. Pourquoi une telle faute de goût, cher docteur, me demanderez-vous? Eh bien, parce qu'à mon humble avis, The Terminator est un de ces films américains typiques des années 80, au point de devenir un repère de la pop culture et que tout le monde connaît au moins de nom. Et de plus, ce film est basé sur la théorie du voyage dans le temps, thème très cher à cette émission, comme vous le savez. Je vous résume vite fait le film. En 1984, un robot à forme humaine, le T-101, incarné par un Schwarzenegger muet durant tout le film, est envoyé depuis l'année 2029 par un super-ordinateur pour assassiner la mère d'un homme qui sera, dans le futur, le chef de la résistance humaine, John Connor. Dans un monde dévasté par les machines qui ont éradiqué presque toute forme de vie sur Terre, eh bien, la future maman, dénommée Sarah Connor, n'a absolument aucune idée de ce qui lui arrive lorsque le T-101 lui tombe dessus. Par chance, elle se retrouve vite en compagnie de Reese, un soldat de la résistance humaine de 2029, envoyé en 1984 par son propre fils pour la protéger. Des liens se nouent et dans le feu de l'action, ils s'attellent tous les deux, sans le savoir, à la conception d'un fils qui ne sera autre que le futur John Connor. Et donc, que nous pose le scénario de Terminator sous les yeux ? Un paradoxe temporel, nom de Dieu. Mon thème préféré, ça tombe bien. Si le père de John Connor n'est autre qu'un soldat du futur, même pas encore né en 1984, est revenu dans le passé pour concevoir un enfant du futur. N'a-t-on pas ici un merveilleux questionnement philosophique, à savoir si le futur est déterminé par le passé, ou si le passé est déterminé par le futur? Mais alors dans ce cas, le futur est-il déjà prédestiné? Vous avez 4 heures. C'est un film popcorn pur jus et un produit de consommation de masse absolutely 80s, un film idéal pour un samedi soir sans prise de tête et sans grande motivation intellectuelle. Et si vous ne l'avez pas vu, il y a sûrement, assurément, un trou dans votre pop culture. Bref, passons après tout ça à la case musique alors. Pour enchaîner là-dessus, je me suis dit qu'il fallait un autre tube, bien popcorn aussi, un pur produit de consommation de masse, et c'est tout naturellement que mon choix s'est alors porté sur un des méga tubes de 1984. Et vous ne pouviez pas, à cette époque, ne pas l'entendre, puisqu'il a été joué jusqu'à l'overdose par toutes les radios de l'époque. On va s'écouter Laura Branigan avec Self Control sur Classics Time Machine. And after that, comme disait Arnold, I'll be back.
make myself believe it. This night will never go.
La France était en liesse hier soir, on se serait cru en plein 14 juillet, même les pétards étaient de la partie pour célébrer la victoire des Français en finale de l'Euro 84, une finale qui apportait son lot de frissons, puisqu'on a cru jusqu'au dernier moment que les Français ne parviendraient pas à conserver leur but d'avance. Une pensée coupable, puisqu'ils ont terminé le match sur le score de 2-0.
Ils ont gagné, alors on a gagné. 22h30 hier, Paris et ses champs sont envahis. Aucun événement sportif n'avait donné lieu à de telles scènes de liesse jusqu'à ce 27 juin. Chacun fête à sa manière les héros et surtout le héros des héros, Jean Tigana. Et lorsque, pendant les arrêts de jeu, Jean Tigana ouvre la voie du but à Bruno Bellone, on espère et on admire.
L'équipe de France a une telle qualité scientifique et en même temps on sent une telle âme collective qu'un tout petit élément de plus dans la rapidité pourrait renverser le rapport de force.
Et le tout petit élément, c'est l'autre héros, Michel Platini, l'homme par qui les buts arrivent. Il s'embrasse, Hidalgo l'embrasse, lui embrasse la coupe, mais qui hier soir n'a pas eu envie de l'embrasser ?
Et je vous avais dit, juré et promis dans une précédente émission que jamais plus je ne parlerai de sport sur cette antenne. Eh bien, mal vous a pris de me croire, car oui, c'est comme ça, je suis pire qu'un politicien. Je reviens toujours sur mes promesses quand ça m'arrange, et il me fallait 7 sujets, et j'en avais que 6. Donc voilà, gratuitement et sans réel fondement d'importance historique, vous allez vous rappeler qu'en 1984, la France devenait championne d'Europe, notamment grâce au service de ce bon vieux Platoche, qui permit à des milliers de smicards de s'enivrer sur la place publique sans broncher du fait qu'il y avait quand même quelques Noirs et quelques Arabes dans cette équipe des Bleus, dans une époque où on ne parlait surtout pas encore de coupe féminine de football. Voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce sujet un peu bâclé, il faut l'avouer, mais ne vous inquiétez pas, j'ai encore quelques sujets graves et sérieux à évoquer avec vous. Après que l'on se soit écouté un titre de 1984 au moins aussi débile que ce sujet, mais tout aussi chouette à se remémorer si vous étiez vivant cette année-là. Depuis quelques années, en 84, soufflait en Europe un vent musical nouveau qui nous venait tout droit d'Italie et qui fut donc justement nommé Italo Disco. L'Italo Disco, c'est une sorte de pop électronique plus kitschissime tu meurs, mais qui a enfanté quelques perles d'hilarité et qui vaut la peine d'être évoqué. Je vous rassure, il y a eu quelques très bons titres d'Italo Disco, mais manifestement pas en 1984, car cette année-là, le carton du groupe fut réalisé par le groupe Baltimora, ou devrais-je dire Baltimora, avec leur single Tarzan Boy, dans un anglais très approximatif et aux paroles d'une mystérieuse débilité, et doté en plus d'un clip ridicule et laid au point d'être même gênant à regarder pour les plus cyniques d'entre vous. Allez, on arrête de se prendre au sérieux 3 minutes et on va chanter à plein poumon le refrain que vous connaissez. Si, si, voici Baltimora avec Tarzan Boy. Avanti, la macchina del classico tempo.
Non, je vais vous dire ce que...
Votre mode de vie a changé depuis 3 ans?
Non, je fous tout en l'air et puis rien de sérieux. Mais le racket des impôts, je vais vous dire ce que je vais vous faire. Ça, c'est pas une parabole, c'est du physique. Je vais prendre un billet de 500 balles. Hein, je vais vous dire, je suis taxé à 574%. Hein, je vais vous dire ce qui m'en est. C'est bien que ça, c'est illégal ce que je vous fais.
C'est illégal, oui.
C'est illégal. Je vais le faire. C'est mon fantôme, je n'ai rien à signer sur mon régime. Voilà, je vais vous dire ce qui me reste. J'arrêterai à 74%. Il ne faut quand même pas déconner. Hein. Parce que ça, c'est pas pour les pauvres. Hein. C'est pour le nucléaire et tout.
Vous vous rendez compte que vous provoquez beaucoup de monde en faisant ça?
Oh, écoutez, c'est mon pognon, je n'ai rien à signer. Voilà, voilà ce qui me reste. C'est ça. Là, ce qui me reste, c'est 60%. Oh, maintenant, c'est foutu.
Qu'est-ce qui est foutu? Vous pouvez plus travailler comme autrefois?
J'aimerais que les pauvres aient tous des Rolls. Moi, j'ai vendu la mienne. Voilà. Ouais, le travail, c'est ça.
Une nouvelle provocation de Gainsbourg en direct à la télé le 11 mars 1984. Invité du plateau de l'émission phare de la chaîne TF1, 7 sur 7, il répond aux questions des journalistes Éric Gilbert et Jean-Louis Bugnat lorsqu'il explique avoir été déçu par Mitterrand et le socialisme. Il fait la parabole sur l'introduction de l'impôt sur la fortune par le parti pour lequel il avait voté en 1981, avec l'idée d'un acte sexuel non consenti avec un travesti prostitué. Alors sur ces bonnes paroles, pour expliquer son dégoût d'être imposable, il sort un billet de 500 francs et le brûle à 74% en direct sur le plateau télé. La réaction est immédiate, la chaîne est submergée d'appels de téléspectateurs indignés. La presse en fait ses choux gras, on débat, on discute, tout le monde commente ce geste. Et ce raffut, tout ce raffut, ça arrange bien Serge Gainsbourg qui dans la foulée annonce, ça tombe bien, la sortie d'un album tout aussi scandaleux, Love on the Beat. Un album où, délaissant le reggae qui lui avait été si cher, il part explorer les rythmes du new beat. Malgré le tollé que provoquent certaines chansons comme Lemon Incest, No Comment ou Kiss Me Hardy, l'album Love on the Beat, qui n'a qu'un seul thème principal, le sexe sous toutes ses formes et toutes ses variantes, est un très gros succès commercial. Pour certains, cet album coïncide avec le déclin de Gainsbourg, rongé par l'alcoolisme et la drogue, un Gainsbourg fatigué, usé, qui fait de la provoque gratuite et râle les pâquerettes et court les plateaux télé pour faire le buzz. Quoi qu'il en soit, on va s'écouter un de ces titres scandales de cet album. Ah oui, et au fait, pour la petite histoire, le petit fragment du billet de 500 francs que Gainsbourg avait brûlé, eh ben il a été vendu aux enchères en 2011 pour la modique somme de 15 000 euros. Donc voilà, si vous êtes une grenouille de bénitier, attention, vos oreilles vont un petit peu chauffer. Sur Classics Time Machine, voici Serge Gainsbourg avec ce titre provoque à souhait, No Comment.
J'ai quoi ? Affirmatif. Et quoi d'autre ? Si je baise ? Affirmatif. Quoi ? Des noms ? Des salopes ? Affirmatif. Des actrices ? Des gamines ? Affirmatif. De quel âge ? Quoi ? Affirmatif. Et quoi d'autre ? Si je vends d'affirmatif. Pour qui ça ? Pour des études, affirmatif. Et qui d'autre ? Brune, blonde, affirmatif. Et rouquine. Affirmatif. Et quoi d'autre ? Si j'assure, affirmatif. Quoi ? Tout seul ? La technique ? Affirmatif. Du doigté ? Self-control ? Affirmatif. Comment ça ? Quoi d'autre ? Si j'aime ça, affirmatif. Quel côté ? Peu importe, affirmatif. Ce que je préfère ? Obsédé, affirmatif. Sexuel. Quoi d'autre ? Si j'assure, affirmatif. Quoi, tout seul ? La technique, affirmatif. Du doigté ? Self-control, affirmatif. Comment ça ? Affirmatif. Et quoi d'autre ? Si j'aime ça, affirmatif. Quel côté ? Peu importe, affirmatif. Ce que je quoi faire. Obsédé, affirmatif, sexuel.
Thank you.
We're going 80s all the way here. À l'instant, c'était le britannique Nick Kershaw en 1984 avec son plus gros titre, Wouldn't It Be Good. Vous écoutez Classics Time Machine avec le Dr M aux commandes. Tout de suite, la suite en archive, on se retrouve juste après ça.
Il a été retrouvé noyé dans la Vologne, une rivière des Vosges. Il avait les poignets liés et une cordelette autour du cou. Le petit Grégory, 4 ans, a été assassiné et le meurtrier a téléphoné à la famille après avoir accompli son geste horrible. Françoise Champé.
C'est dans cette rivière qu'on a retrouvé le corps du petit Grégory, 4 ans, pieds et mains liés. Mardi après-midi, l'enfant jouait devant la maison de ses parents. À l'autre bout du village, au même moment, son oncle reçoit un coup de téléphone anonyme. Une voix inconnue lui dit « Je me suis vengé, j'ai pris l'enfant ». C'est vrai, Grégory a disparu. Les gendarmes organisent une battue. Après 3 heures de recherche, on retrouve son corps dans la rivière. Depuis quelque temps, la famille était harcelée, menacée par des inconnus au téléphone.
Elle avait eu des coups de téléphone anonymes, des lettres pareilles, anonymes, et puis il y avait une personne, enfin je ne sais pas qui hein, exactement, qui était venue défoncer sa porte la nuit, des choses comme ça, quoi. Elle avait toujours des menaces, quoi, puis sans plus.
Ces derniers temps, il y avait encore eu des choses
Il y en a toujours eu quand même, hein, plus ou moins, mais il y en a toujours eu.
La piste poursuivie par les enquêteurs, celle d'un règlement de compte familial. Les policiers ont déjà procédé à l'audition d'une dizaine de personnes, membres ou proches de la famille. Ils sont persuadés que le corbeau connaissait très bien Grégory.
L'affaire Grégory Villemain, ou affaire du petit Grégory, débute le 16 octobre 1984 en fin d'après-midi, lorsque Christine Villemain signale la disparition de Grégory, son fils de 4 ans du domicile familial situé à L'Épanche-sur-Vologne. Le même jour, le corps sans vie de l'enfant est retrouvé vers 21h15 à près de 7 km de là, dans la Vologne, une rivière des Vosges. La photographie du repêchage du corps de Grégory, les pieds, les mains et la tête liés par des cordelettes et un bonnet de laine rabattu sur le visage paraît dans la presse et marque d'emblée l'opinion publique. L'affaire attire rapidement de nombreux journalistes, français puis étrangers, et dès le surlendemain, fait la une de la presse nationale. Ce cas est considéré comme exceptionnel dans l'histoire judiciaire française en raison de sa longévité, de son contexte, du profil de la victime et enfin du caractère énigmatique du mobile et des circonstances du crime. En plus de 35 ans, l'affaire a connu divers rebondissements et a donné lieu à de nombreuses erreurs de procédure, principalement de la part du premier juge d'instruction, au point qu'elle fait généralement figure d'exemple parmi les pires échecs de l'institution judiciaire, dont les manquements dès le début de l'enquête semblent avoir empêché toute identification du ou des coupables. Et lorsque cette affaire revient au premier plan de l'actualité en juin 2017, le premier juge d'instruction, Jean-Michel Lambert, très critiqué pour sa gestion chaotique du dossier, se suicide le 11 juillet. En raison du rôle que les médias ont joué à cette occasion, une grande partie d'entre eux se verront reprocher tant leur traitement feuilletonesque de l'affaire que le manque d'objectivité et leur intrusion inadmissible à la fois dans la vie privée des intéressés et dans l'enquête judiciaire. Mais ce qu'on retient surtout 35 ans plus tard, c'est la cruauté de l'acte et les mobiles qui semblent avoir motivé ce crime paraissent aussi immondes que stupides. Jean-Marie Villemain, père du petit Grégory, avait obtenu une promotion dans l'usine où travaillaient une bonne partie des habitants de la commune et notamment une partie de la famille Villemain. De toute évidence, il apparaît que ce soit la jalousie du succès du père qui ait incité un ou des membres de la famille à accomplir ce geste ignoble. L'envoi de lettres anonymes par un corbeau se réjouissant de la souffrance des parents du petit Grégory termine de couvrir cette affaire de la marque de l'infamie. Et surtout, on a pu assister à une véritable omerta au sein de la famille Villemain, faisant pression sur plusieurs de ses membres pour qu'ils se taisent devant les représentants de la justice, laissant de fait l'enquête s'embourber. Bref, une histoire de jalousie et de bêtises crasses au cœur d'une famille prolétaire rongée par les conflits d'argent et les clans qui s'y étaient formés. L'affaire du petit Grégory, malgré de rebondissements à la chaîne, n'a toujours pas fini de faire couler de l'encre et reste aujourd'hui un des plus macabres mystères des années 80, voire de tout le 20e siècle en France.
Tell me all.
Encore un titre plongé dans l'oubli collectif et qui fut pourtant un des plus gros succès de 1984. Sur Classics Time Machine, your classic pop radio show, vous venez d'entendre le cyberpunk peroxydé Billy Idol avec Eyes Without a Face. Et ça y est, mesdames et messieurs, vous avez survécu à votre 15e voyage dans le temps. Nous arrivons à la fin de cet épisode de Classics Time Machine. Il est donc temps pour vous de redescendre du vortex radio-temporel et de reprendre vos petites occupations de 2019. Nos excuses pour les petits trucs techniques, les petits problèmes, ça arrive et c'est ça aussi la beauté du direct. Comme toujours, cette émission a été préparée, réalisée, montée et écrite par moi-même, le Dr M, et notre technicien du soir, que je remercie pour son savoir-faire, c'était comme d'habitude notre mentor, Clément, merci à toi. Je vous rappelle que si vous souhaitez réécouter cette émission ou consulter la playlist ou laisser vos remarques et suggestions, que vous pouvez nous retrouver sur notre site www.radiosaintafrique.com, tout attaché. Quant à moi, je vous dis au mois prochain pour un nouveau chapitre de Classics Time Machine, cette fois-ci pour un voyage radio-temporel vers les 60s. Merci encore d'avoir été là, and see you in July, guys!
C'est des Classics Time Machine. Une émission proposée par Dr. M. A bientôt.
I'll be back.